Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne, Sabine Marin.
Sur cette libre antenne du dimanche soir, nous sommes de nouveau ensemble pour 2 heures de confidence et de partage. 2 heures durant lesquelles nous sommes là les uns pour les autres. Ces autres avec qui les choses sont si difficiles. Quelquefois, quand les premières expériences affectives ou relationnelles se sont mal déroulées, ou bien quand on a vécu une relation traumatisante, on peut avoir ce mouvement de recul et fuir les autres, pour ne pas souffrir davantage, dit-on. On a l'impression de ne plus savoir s'y prendre, de ne pas connaître les codes. Alors on évite les contacts, les engagements et on se replie sur soi. Nous avons tous aussi dû apprendre à nous détacher de nos parents, à faire face à des amours qui s'arrêtent, à des proches qui disparaissent, à des rêves qui s'envolent. Et choisi ou subi, aucune de ces séparations n'est sans douleur. Mais comme le dit si bien la psychanalyste Nicole Fabre, puisque la vie est changement, vivre c'est accepter de n'être plus ce que l'on a été et accepter que les autres ne soient plus non plus ce qu'ils ont été. Pour cela, il est important de soigner ses blessures, de travailler sur un passé trop présent et de relativiser l'importance exagérée accordée aux autres pour nous recentrer sur nous-mêmes et au final de pouvoir choisir de nous lier si ces liens sont épanouissants et de nous détacher lorsqu'ils ne le sont plus. Des autres et de vous, parlons-en ce soir sur cette libre antenne. Amandine et Hassan attendent vos appels au 3921 dès maintenant jusqu'à 1h du matin. Pour participer à l'émission par SMS, je vous rappelle que vous pouvez faire le 739-21 en commençant par le mot nuit. Mon autre ce soir, celui qui est à la réalisation, c'est Fabrice Fougerouze. Et la libre antenne, ça commence maintenant.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et on va commencer ce soir avec Jade qui va aborder avec nous le délicat sujet de la transsexualité. A tout de suite. Et nous allons donc commencer cette émission en faisant la connaissance de Jade. Bonsoir Jade.
Bonsoir.
Bienvenue sur cette libre antenne.
Merci.
Vous êtes toute jeune Jade, 20 ans?
Exactement.
Alors racontez-moi votre histoire.
Eh bien, je suis née donc de sexe masculin, sous le nom de Michael. Et tout simplement, en grandissant, à l'adolescence, on se pose des questions, on apprend à se connaître. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et à force de répondre à mes questions, j'ai très vite compris que j'étais une jeune femme transgenre, tout simplement, que mon genre ne correspondait pas au sexe qu'on m'a donné à la naissance.
Comment est-ce que vous avez ressenti quand vous dites quelque chose n'allait pas? C'était quoi concrètement?
Ben, on se comprend qu'on est différente, on n'aime pas ce que normalement la société ferait qu'on est censé aimer. J'ai toujours été un peu différente. On m'a beaucoup prise pour un homosexuel pendant mon adolescence. Alors que pour moi, c'était pas du tout homosexuel. Enfin, je me posais pas de questions. Et le fait que les gens nous rejettent pour le fait qu'on pense qu'on est homosexuel ou autre, on se pose des questions sur nous-mêmes. On se dit, mais est-ce que je suis vraiment homosexuel ou autre? Alors que, qu'on le soit ou pas, on se pose pas des questions quand c'est nous-mêmes. On le vit avec et on se pose jamais des questions. Mais quand les autres nous obligent à nous poser des questions, eh bien, on se les pose et c'est à partir de ça que j'ai commencé à réfléchir. Et quand j'ai eu mes premiers rapports, en fait, avec des garçons, j'ai vite compris que je me sentais femme, en fait, et que j'étais une femme. Et que du coup, pour me sentir mieux, j'ai dû commencer une transition.
Alors, comment ça a été accueilli, ça, autour de vous, par vos parents notamment?
Ben, beaucoup de peur pour moi. En fait, parce qu'on sait que dans notre société, c'est difficile d'assumer une telle différence. Donc, le rôle de mes parents a été de me ralentir gentiment. Ils l'ont très bien pris, mais ils ne voulaient pas que je fonce tête baissée. Comme je leur ai annoncé un peu du jour au lendemain, ils avaient peur que je me trompe de choix ou autre. Et comme c'est des choix quand même avec de lourdes conséquences physiques, mes parents ont été là vraiment pour me soutenir, mais ils ne m'ont jamais poussé à le faire. C'est-à-dire qu'il me soutenait moralement, mais ma mère n'a pas voulu m'aider pour les démarches ou autre parce qu'elle avait peur de m'aider à faire un mauvais choix. en fait.
Oui, bien sûr. C'est une lourde responsabilité aussi pour une maman.
C'est pour ça. Mes parents, alors, m'ont toujours dit que je faisais ce que je voulais parce que c'était mon corps et qu'eux, ils ont fait des enfants pour être heureux avec leur enfant. Donc, que
ça,
ce soit un homme ou une
déjà,
femme.
C'est déjà formidable comme attitude. Hein. Alors, une ouverture.
Pour une femme transgenre, c'est quelque chose d'énorme d'avoir une famille entière qui nous soutient. Parce que si j'ai un petit message à faire passer aux familles, surtout, c'est ce qui fait que moi, je le vis bien aujourd'hui, je pense. C'est grâce à ma famille. Ce qui fait que je suis aussi heureuse, aussi épanouie, c'est parce que j'ai été soutenue et que j'ai ressenti aucun mal avec ma situation.
Quand vous dites que vous avez abordé le changement, sur le plan physique et sur le plan des interventions, comment ça se passe? Quelles sont les étapes à franchir?
Alors, tout d'abord, il faut aller voir un psychiatre parce que la loi française oblige donc d'avoir des rendez-vous chez un psychiatre. Moi, je suis contre cette loi-là, mais bon, c'est la loi. Donc, on est obligé d'avoir un suivi psychiatrique. Donc, il faut faire comprendre aux gens que ce n'est pas n'importe qui est trans. Donc, ce n'est pas juste une lubie, ce n'est pas rien qu'une idée. On a 2 ans d'obligation psychiatrique avant tout choix. Ça fait que c'est quelqu'un d'extérieur à nous qui choisit ou non si on est trans. Je ne sais pas si vous voyez un peu les petits problèmes. Mais bon.
Oui, je pense que c'est aussi pour s'assurer qu'il y a un équilibre mental et psychique.
Exactement.
Et que ce n'est pas une décision prise sous l'influence de quoi que ce soit, de qui que ce soit.
Voilà. Donc, ce médecin-là, une fois qu'il nous a déclaré comme femme transgenre, on a le droit d'aller voir le médecin qui va nous donner les hormones, en fait. Et donc, ces hormones, c'est des cachets et des gels qui vont faire augmenter notre taux d'hormones féminines ou masculines, selon là où on se range.
Donc, en l'occurrence, donc, pour vous, féminine.
Voilà, parce que moi, je cherche à devenir une femme, donc on me donne des hormones féminines.
Et ces hormones-là... Comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose qui a des effets secondaires? Est-ce que vous avez eu du mal pendant ces moments-là?
Alors, les hormones, ça modifie toutes les graisses de notre corps.
Oui.
Donc, non, on a plus de hanches, on a les seins qui poussent naturellement, on a la peau qui s'affine, le poil qui devient plus doux. Et ça joue beaucoup, du coup, sur le caractère. Parce que c'est comme une femme enceinte, c'est comme une fille pendant ses règles. Quand on a un pic d'hormones trop important, on a le caractère et les humeurs qui changent. Mais sinon, ça peut attaquer un peu le foie aussi. Mais comme on dit, on préfère mourir en tant que femme avec un foie en moins que de mourir en tant qu'homme. Donc...
Et comment on vit ces changements d'humeur, justement, cette fragilité par moments, ces vagues?
On ne s'en rend pas compte nous-mêmes, c'est plutôt les autres. C'est vrai que des fois, je m'engueule plus avec mes parents et ma mère me dit Jade, fais attention. Ou alors, au début, il faut trouver le bon dosage. Donc c'est vrai que quand le médecin nous donne le dosage, c'est vrai que les premières semaines sont assez importantes. Pour vérifier notre humeur. Moi, ça a été, mais c'est vrai qu'on a plus des petits coups de déprime. Ça varie, mais comme je suis entourée, je ne le ressens pas.
Oui, c'est sûr que quand le moral est là, quand le moral est, le moral et le soutien sont là, c'est plus facile à vivre.
Exactement.
On est plus fort.
Comme la société n'est pas forcément avec nous, si on est vraiment entouré de personnes blindées qui nous aiment et qui nous donnent de l'amour pour les autres, on n'a pas besoin de rechercher de l'amour ailleurs, en fait.
Et alors après, ça va jusqu'où la transformation physique? En tout cas pour
alors
vous.
Alors ça dépend. Chaque trans, c'est unique, c'est selon eux. Ben moi, pour l'instant, la première étape, en tout cas, ça serait l'opération des seins que j'aimerais bien faire en décembre. Pour moi, c'est cette première étape. Après, je ne sais pas, il y en aura sûrement d'autres, mais pour l'instant, la première étape, c'est celle-ci.
Qu'est-ce que ça changera pour vous?
Beaucoup. Alors bon, pour moi, je sais que je suis une femme, et alors peu importe si j'ai des seins ou pas, pour moi, je suis une femme. Mais c'est toujours ce rapport aux autres, en fait. C'est prouver aux autres qu'on est une femme, en quelque sorte. Vous comprenez? Parce que moi, je le sais que je suis une femme, mais c'est vrai que bon, si on a des seins pour les garçons, pour le regard des autres, simplement, c'est une genre de crédibilité, en quelque sorte.
Oui,
Pour mon bien-être personnel, je me sentirais quand même plus femme avec ce corps-là.
Il faut faire une différence entre le transgenre et la transsexuelle, qui n'a rien à voir.
Alors, si transsexuel, c'est une fois opéré du sexe. On appelle ça transsexuel.
C'est pour ça que je vous demande jusqu'où vous voulez aller.
Donc moi, pour l'instant, je me considère comme femme transgenre, car je ne suis pas opérée, et je ne sais pas si je ferai l'opération ou pas par la suite, car c'est des opérations très lourdes, importantes, et encore un peu trop risquées. Donc je verrai par la suite. Pour l'instant, tout se passe bien pour moi, donc on verra.
Et comment,
je suis jeune encore.
Comment ça se passe? C'est-à-dire que vous aimez les hommes?
Alors, ça, c'est totalement délié de l'orientation sexuelle. Si une femme peut être bi, hétéro-lesbienne. Une trans peut être bi, hétéro-lesbienne.
Oui, je vous pose la question à vous. J'entends bien, c'est à vous que je pose la question. Quelle est votre orientation, vous, aujourd'hui ?
Moi, je suis hétérosexuelle, j'aime les hommes. Donc, je suis une femme trans qui aime les hommes.
D'accord. Mais comment ça se passe quand vous rencontrez un homme ? Vous lui dites tout de suite ? Ou est-ce qu'il s'en rend compte
tout de suite ? Oui, je ne perds pas mon temps.
Oui, c'est ça.
Je ne perds pas mon temps parce que je pars du principe où même une fois opérée ou autre, ce n'est pas quelque chose à cacher, selon moi. Ça fait partie de moi et comme j'en suis fière, je ne le cache pas. Non, je ne perds pas mon temps. Moi, j'ai la chance d'être déjà accompagnée et ça se passe très très bien. Donc, je n'ai pas besoin de le dire à d'autres garçons.
Oui, d'accord. Ce qui compte, c'est qu'on vous aime pour qui vous êtes.
C'est ça.
C'est ça le plus important. Quelle que soit l'apparence, c'est qu'on vous aime, vous ?
Ben, en fin de compte, oui. C'est ce qu'on recherche tous. Donc,
Est-ce que vous avez changé de prénom, par exemple ?
Alors moi, pas encore. Tout simplement, je suis étudiante et là, je passe mon diplôme cette année et j'ai préféré le faire cet été. C'est une étape qui va très, très vite. Donc le changement de prénom en mairie, ça se fait en 7 jours. Sauf que le souci, c'est qu'après, il faut appeler tous les organismes qui utilisent votre prénom pour le changer. Et ça, c'est un énorme boulot, quoi. Il faut appeler les médecins, il faut tout appeler. Et donc du coup, j'ai préféré rester tranquille sur mes études. Mais socialement, mon prénom est déjà changé. On ne m'appelle jamais par mon ancien prénom.
Alors justement, j'allais vous poser la question. Comment ça se passe autour de vous, les amis qui vous connaissent depuis l'enfance, par exemple ? Pas évident.
C'est l'habitude. C'est une habitude bête, en fait. C'est juste une habitude. Après, mes amis et tout le changent. Mes parents ne m'appellent pas par mon prénom féminin. Mais quand ils parlent de moi, ils utilisent mon prénom féminin. C'est une habitude trop importante. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils... Quand on parle comme ça, on ne pense pas en fait, à changer de prénom. Scolairement, tout mon lycée a changé mon prénom et ça n'a posé aucun problème dès le départ. Après oui, qu'on m'appelle un petit peu par mon prénom masculin, ça ne m'embête pas parce que moi, comme je dis, je le vis très bien. Donc,
c'est ça, ça a fait partie de vous. C'est aussi une histoire à garder quelque part en vous. C'est ça, voilà. Ça a été vous aussi.
C'est ça, moi j'ai pas envie de l'oublier, mais
une sorte de fidélité,
j'ai pas envie qu'on me le rappelle non plus.
Oui,
mais...
C'est une sorte de fidélité à ce que vous avez été, mais qui est maintenant rangée dans un petit coin quelque part.
Exactement, ça fait partie de ma fierté en fait, de me souvenir de ça. Donc, moi je l'utilise moins, et c'est vrai que quand on me demande par curiosité mon prénom, je le dis pas parce que tout simplement c'est juste que j'ai pas envie qu'on l'entende trop. Là je l'ai dit en présentant dès le départ parce que j'ai envie de montrer que si je passe à la radio, c'est pour prouver que je suis trans et fière. C'est pas pour moi, c'est pour toutes les personnes différentes. Qu'elles soient trans ou non, c'est pour prouver qu'on puisse être fier. Donc, je t'ai dit mon prénom dès le départ, mais habituellement, je ne l'utilise pas. Mais là, je veux juste montrer que tant qu'on est heureux avec nous-mêmes, on peut se foutre de tout ce que les gens pensent.
Alors justement, Jade, je vous trouve très courageuse, mais vous avez aussi cette chance d'être comprise, d'être entourée, d'être aimée. Mais est-ce que vous échangez, et j'imagine que oui, avec d'autres jeunes dans la même situation que vous, et qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour eux quand on n'a pas cette chance d'être entourée comme vous l'êtes ?
Alors, moi, j'ai deux chances, si je peux dire sans être prétentieuse, c'est d'être entourée et d'avoir un passing assez réaliste. Donc, c'est-à-dire d'être déjà très féminine malgré mon jeune âge. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que le poids de la société, je le sens beaucoup moins qu'une personne trans qui va partir d'un physique très masculin. Et le plus dur pour les personnes, c'est le regard des autres, en fait. Mm-hmm. Le fait que les autres nous voient encore comme des garçons. C'est-à-dire que moi, quand j'ai voulu changer, j'étais très androgyne. Donc, on ne m'a jamais dit « il ». Enfin, on ne me le dit jamais. En fait, que j'ai des seins ou pas, on ne m'a jamais dit « il ».
Oui, la transition était peut-être moins brutale qu'avec quelqu'un qui aurait un vrai physique de petit mec, quoi, si je puis dire.
Et du coup, ce qui est le plus difficile pour ces gens-là, c'est le regard des autres, en fait. Mmh. Et donc, du coup, sans être soutenu, ce regard-là nous enterre parce qu'on a peur des gens, on ne veut plus sortir, on ne veut plus... Et du coup, ces gens-là le vivent très mal. Et moi, je suis dans une association sur Montpellier. Et d'ailleurs, il y a des associations dans toutes les grandes villes de groupes de parole pour les femmes trans, les hommes trans, les personnes bigenres, etc. Et ces rendez-vous-là, je les conseille à tout le monde parce que ça permet d'échanger avec des personnes comme nous qui ont des vies différentes. Et c'est important aussi d'être entouré de personnes un peu plus avancées que nous qui peuvent nous aider, nous apprendre et nous faire comprendre qu'est-ce qui risque de nous arriver ou autre.
Mmh. Alors, autre sujet, vous êtes encore très jeune, mais autre sujet peut-être délicat ou qui pose question, les enfants, vous en souhaitez ?
Alors...
Comment ça se gère, ça ?
Les enfants, ben, j'ai déjà parlé avec mon compagnon qui, lui, aimerait des enfants. Donc, parce que lui est hétéro 100%, etc. Il me voit comme une femme et tout. Et lui n'est pas spécialement focalisé sur les femmes transgenres. Il est tombé amoureux de moi. Donc, pour les enfants, c'est compliqué. Moi, je n'en voulais pas dès le départ. J'aurais préféré être marraine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Plutôt le côté parrainage d'un enfant. Lui donner de l'amour, du bien matériel, etc., que le fait d'avoir un enfant à moi, parce que, voilà, moi je suis dans une famille nombreuse, donc je sais que j'aurai la chance d'avoir,
Des
d'être
nièces,
marraine sûrement
ouais.
plusieurs fois, donc,
Des nièces et des
pour
neveux.
l'instant, je pense que je suis trop jeune pour vraiment en parler. Peut-être dans 2, 3 ans, je ressentirai avec la maturité l'envie de laisser ma trace sur terre, enfin, mon éducation ou autre, mais pour l'instant, Mais sinon, je tenterai vers l'adoption, je pense.
Oui, c'est pas à l'ordre du jour, mais vous en avez quand même déjà parlé avec lui, quoi.
Mais c'est important parce que pour moi, un garçon qui me choisit, dès le départ, c'est des questions qu'il faut poser. Parce que quand on nous choisit en tant que femme trans, la première question, c'est vas-tu changer de sexe? Veux-tu des enfants? L'assumes-tu? C'est des questions bêtes qu'on ne pose pas à des vraies femmes. Des vraies femmes,
Oui.
de terme, hein, des femmes biologiques. Parce que un garçon qui va venir vous draguer, il ne va jamais vous demander t'as envie d'avoir des enfants plus tard, parce qu'il sait que si t'en veux ou pas, tu pourras en faire.
Oui, bien
Alors que
sûr.
ça, c'est des questions que pour nous qui sont importantes dès le départ. Parce que des hommes qui veulent des enfants, il y en a beaucoup. Donc moi, le mien, d'ailleurs, en veut. Donc c'était une question importante pour lui.
Oui, puis je crois que dans une situation comme ça, il est important de tout se dire, en fait.
Dès le
D'être
départ.
le plus honnête possible.
Dès le
Et dans
départ,
son
oui.
entourage à lui, comment est-ce que les réactions se sont passées? Comment vous avez été accueilli?
Alors, pas tout le monde est au courant pour l'instant, parce que ça se fait tout doucement et qu'on voulait être sûr d'être vraiment bien ensemble. Comme je l'ai dit, j'ai pas envie qu'il risque quelque chose avec sa famille si on n'est pas sûr d'être bien ensemble. Mais il commence à le dire à de plus en plus de personnes. Donc, tous ses amis, etc., sont au courant. C'est vraiment le côté famille proche qui n'est pas encore au courant.
Ses parents ne le savent pas.
Mais non, pas encore. Mais selon lui, ça passera très très bien. C'est juste qu'il veut le dire au bon moment, en fait. Simplement.
Vous n'avez pas d'appréhension de ce côté-là?
Ben, je pense que toute femme qui rencontre sa belle famille a une
Oui,
appréhension de toute façon.
c'est pas faux, oui. C'est vrai que.
Mais un petit peu plus, c'est vrai. Pas pour moi, pour lui. Pour lui, en fait. C'est pas pour moi que j'ai l'appréhension, c'est pour lui, quoi. Mais lui a été très bien accepté par mes parents et voilà, quoi. C'est ça.
Quel message voudriez faire passer ce soir, Jade?
C'est pour toutes les personnes différentes. J'ai envie qu'on enlève l'étiquette de femme trans que j'ai ce soir, mais plutôt de personnes différentes à la société, on va dire, normale. J'aimerais que chaque personne apprenne à s'aimer et à être comme elle veut être.
En tant qu'être humain, tout simplement.
Exactement. J'ai envie de dire aux gens que peu importe votre avis, j'accepte que vous êtes contre moi et j'accepte que vous êtes pour moi, en fait. J'aime tout le monde et je continuerai à aimer tout le monde. Je pense que c'est comme ça que je vis. Et que si on vivrait tous comme ça, on y arriverait un peu mieux.
Il y aurait moins de haine sur Terre, ça c'est sûr.
Ça, je pense.
Si on laissait tomber toutes les étiquettes pour ne considérer que nous sommes tous que des êtres humains qui faisons notre mieux, ça serait plus sympa.
Mais exactement, ça va avec tous les stéréotypes que nos sociétés créent. Ça, c'est
La haine de
pour tout
l'autre,
le
oui.
monde, hein.
Mais...
Pour tout le monde.
Ben Jade, merci beaucoup de ce témoignage positif, de ce joli sourire.
Merci beaucoup.
Je vous souhaite plein de bonheur dans votre vie de femme.
Mais vous aussi, bonne soirée.
Et je vous embrasse. Au revoir.
Au revoir.
Et je vous rappelle que jusqu'à 1h du matin, vous pouvez prendre la parole sur cette libre antenne en appelant le 3921. Amandine et Hassan sont en standard et ils attendent vos appels. Et j'accueille maintenant Micheline. Bonsoir à vous, Micheline.
Oh, bonsoir, Sabine.
Vous n'êtes pas très bien, d'après ce que j'ai compris.
Oh non, vraiment, je suis pas bien.
Alors on va se
J'ai
poser,
appris le
on va se
décès.
parler. Oui, dites-moi.
Oui, j'ai appris le décès jeudi matin d'un ami, enfin des amis qu'on avait de longue date avec mon mari, qui est malheureusement décédé aussi lui. Et alors elle m'a appris le décès de son compagnon.
Oui.
Et ça faisait 40 ans qu'ils étaient ensemble, mais ils n'étaient pas mariés. Parce que ils pouvaient pas se, enfin ils s'entendaient très bien. Les petits enfants les l'appelaient papy, enfin bon, et c'était un homme formidable. Et elle m'a appris son décès jeudi matin. Et
Il est parti de quoi?
D'une crise cardiaque.
Et il avait quel âge, ce monsieur? Quel âge avait-il, ce monsieur?
Il avait 86 ans. Mmh. Et alors, ça allait très bien. Il était très bien. Il était soigné pour un cancer de la prostate. Enfin bref, je le dis. Et alors, ça allait très, très bien. Ma foi, c'était vraiment tellement subi que moi, ça m'a retourné. Depuis, je suis vraiment pas bien. Mmh. Alors, je m'étais dit, ses obsèques ont lieu à l'église mardi prochain. Mmh. Et alors, je m'étais dit, oh, j'y vais, je peux pas faire autrement que d'y aller. Et alors, maintenant, moi aussi, j'ai pas le cœur très bien. J'ai 91 ans. Alors, c'est ça, je voudrais que vous me donniez un conseil, quoi, si je dois y aller ou quoi faire.
Bien sûr. Vous vivez seule, Micheline?
Pardon?
Est-ce que vous vivez seule?
Oui, je vis seule, oui.
Mais est-ce que vous êtes...
Je suis seule, pardon, mais ça va, quoi. Je suis pas quand même, je suis autonome, hein, je suis pas... Mais je dis, mon Dieu, pourvu que j'ai... Faudrait pas que j'ai un malaise là-bas aussi par l'émotion, vous voyez?
Bien sûr, faut tenir le
causé coup. Par l'émotion.
Mais pardonnez-moi de vous poser cette question, mais à 91 ans, j'imagine que malheureusement la vie vous a souvent mis face à la perte de quelqu'un.
Exactement, oui. Non, mais je suis à la charge de personne, hein. Mais enfin, j'ai quand même 80, même bientôt 92. Alors, je sais pas. Mon idée première était d'y aller à la cérémonie de l'église. Je dis, je dois faire ça, je ne peux pas faire autrement. Il faut que j'y aille pour lui. Et puis là, je me fais peur. Je dis, ou alors, il faudrait que j'aille avec quelqu'un qui m'accompagne, voyez.
C'est ce que j'allais vous demander. Mais avant de parler de ça, Micheline, je voudrais savoir, les autres décès dans votre vie auxquels vous avez dû faire face, comment est-ce que vous les avez surmontés?
Ah, j'ai pu faire face, oui.
Mais comment?
Mais quand j'ai perdu mon mari, ça fait 12 ans. Et j'étais beaucoup plus jeune quand même. Et j'ai fait face. Et ce qui m'a sauvée, c'est que avec mon mari, nous étions dans un grand appartement. Et me voyant seule après, j'ai des enfants quand même. Hein.
Mm-hmm.
Et alors, me voyant seule, j'ai tout de suite cherché à le vendre, à m'en séparer. Parce que je dis, il est trop grand pour moi. Et je me suis mise en recherche d'un autre appartement. Et ça m'a beaucoup sauvée, voyez.
D'accord, mais là, on parle de choses matérielles, mais sur le plan moral, comment est-ce que vous avez surmonté les différents deuils?
J'ai surmonté comme j'ai pu, vous savez. Je vais vous dire quelque chose. Dans les débuts, bon, j'avais mon nouvel appartement, là. J'allais faire mes petites courses. Encore à ce moment-là, je marchais encore bien. Et alors, j'allais faire mes courses, tout ça. Dès que j'ouvrais la porte de mon appartement, je me disais, ah non, je peux pas manger là toute seule. Je repartais déjeuner au restaurant. C'était plus fort que moi.
Oui, pour
je ne pouvais pas.
Pour éviter la solitude.
Comment?
Pour éviter la solitude et les idées noires qui tournent en boucle.
Voilà, c'est ça. La solitude, Et puis, j'ai quand même beaucoup d'amis, j'ai tout ça. Mais enfin, là vraiment, ça m'a fait un choc parce que ça a été tellement brutal que, je sais pas, alors, j'aurais mon médecin là, j'aurais été le voir parce que... Mais là, il n'est pas là, il est en vacances, alors je ne peux pas aller le voir.
Est-ce que vous parlez avec votre amie au téléphone, avec la femme de ce monsieur? Est-ce que vous l'avez...
Oui, je l'ai rappelé pour savoir, parce que j'étais bien décidée à y aller. Peut-être que je me fais peur, je ne sais pas, je pourrais peut-être y aller quand même, mais pour savoir où avait lieu la cérémonie à l'église. Alors, elle m'a dit tout ça. Et alors, je voulais y aller, vraiment, je voulais y aller. Je dis, je prends un taxi. Et puis, je vais y aller. Parce que, bon, je demanderais bien à mon fils, mais mon fils travaille encore. Puis j'ai une amie qui est très très proche de moi aussi. Et j'ose pas lui demander parce que je veux pas déranger comme ça.
Attendez, Micheline,
enfin, je sais pas quoi faire.
Alors attendez, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que si vous ne vous sentez pas d'y aller, personne ne pourra vous en vouloir. Tout le monde peut comprendre que vous êtes fatiguée.
C'est ce qu'elle m'a dit.
Mais bien sûr. Et à ce moment-là, si vraiment au pire du pire, vous n'arrivez pas à y aller, vous pouvez participer à la cérémonie depuis chez vous. Vous pouvez allumer une bougie, être avec elle par la pensée, être avec lui par la pensée. C'est aussi une façon d'être là, vous savez.
Oui.
C'est déjà ça. Après, si vous vous sentez un tout petit peu mieux, faites-vous accompagner. Osez déranger, Micheline. Les amis sont là pour ça. Et demandez.
Alors, j'ai pensé, comme mon amie là, qui vient de perdre son compagnon, elle conduit. Alors, je dis, si je peux pas y aller le jour de, malheureusement, mardi, c'est mardi, et je dis, je lui demanderai d'aller après au cimetière sur sa tombe.
Ou alors, peut-être...
Avec elle.
Aussi, oui, mais peut-être, c'est le jour de l'enterrement, pourriez-vous aller juste à la cérémonie à l'église? Si vous vous sentez tenir debout, de faire que la moitié peut-être, de ne pas aller au cimetière, mais de faire la cérémonie à l'église.
C'est ce que je voulais faire, aller à l'église.
C'est ce que je voulais vous dire, Micheline. Ne vous mettez pas une pression inutile. Soit vous n'êtes pas en état et personne ne vous en voudra. Et dans ces cas-là, vous allumez une bougie à la maison et vous participez avec votre cœur à ce qui se passe.
Voilà.
Soit vous sentez de tenir debout un petit peu et vous allez juste à l'église en vous accompagnant. Et personne ne vous en voudra non plus. Tout le monde peut comprendre
ça. C'est ce qu'elle m'a dit.
Ben, bien sûr.
Mon amie, là, c'est ce qu'elle m'a dit. Et tu sais, je le comprendrai à 92 ans bientôt. Elle dit, si tu ne peux pas venir. Elle dit, tu sais, je le comprendrai.
Est-ce que vous êtes croyante, Micheline? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose après la mort?
Comment?
Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose après la mort?
Ben, je sais pas, vous savez. Une fois, j'ai fait un drôle de rêve.
Oui.
Et c'était au sujet de mon mari, là. C'était dans le noir, j'étais dans le noir. J'allais chercher une lampe qu'on allume dans une lampe. Et puis tout ça, c'était dans le noir. Et alors, et après, il y avait quelqu'un qui me suivait avec un gros sac à dos, je vois encore, dans mon rêve. Et il me disait rien, alors je voulais toujours le chasser, lui dire « Non, partez, vous m'ennuyez », enfin, je voulais lui dire tout ça. Je lui disais tout ça, d'ailleurs. Et puis après, on est rentré. Mes parents habitaient dans une venelle. Je suis rentrée dans la même venelle et il me suivait toujours. Puis par un moment, je ne le voyais, je ne l'ai pas vu. Alors, ça y est, je vais être débarrassée. Et alors, il y a quelque temps de ça que j'ai rêvé ça. Et alors, et tout d'un coup, je le vois sortir d'une espèce de cabane et tout ça, quoi. Et puis alors, vous m'excuserez du terme, mais c'était dans mon rêve. Qu'est-ce que vous venez de faire? Je ne sais pas si je dois le dire.
Allez-y, on se dit tout
faire
ce soir.
Faire pipi, quoi. Il m'a dit faire pipi, quoi, voilà.
Oui.
Il m'avait dit autre chose, mais bon. Et alors, à la fin, il y a une chose qui m'a mis vraiment à l'oreille. Il m'a dit, et en plus, j'ai fait du sang. Ben, il ne faut pas rester comme ça. Et mon pauvre mari, qui avait son cancer aussi à la prostate, il urinait du sang. J'ai fait le rapprochement tout de suite.
Oui.
Je dis ça, j'ai rêvé à mon mari. Et c'était peut-être lui qui me suivait avec cette lampe dans la main, toujours dans le noir. Alors, Caroline Duplanche à ce moment-là. Elle m'avait dit, c'était votre mari, c'était qui vous suivait et... dans votre rêve, et vraiment, il y a eu... Alors là, quand il m'a dit ça à la fin, j'ai dit, alors là, c'est vraiment un rapport avec mon mari, vraiment. Vraiment, mais vraiment. Alors, au fait, voilà.
Et qu'est-ce que ça vous inspire, alors, ce rêve?
Ça m'a fait drôle, quoi, de rêver. Et j'avais toujours cette lampe là qui n'était pas allumée. Alors, on rêve des faits. J'ai tout de suite pensé à mon mari. J'ai dit, ça, c'est mon mari. Quand il a dit ça à la fin, là, c'est ça.
Et vous avez
C'est ça.
quelquefois la sensation qu'il est là, qui veille sur vous, qui vous accompagne encore?
Ben, c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle dit, c'est lui qui vous accompagne encore.
Oui.
Elle dit, c'est pas. Enfin, j'avais fait ce rêve-là. Et vraiment, ça avait un rapport flagrant, hein, parce qu'à la fin, c'était ça. Hein.
Il n'y en a pas eu d'autres rêves depuis?
Non,
Non.
depuis, non. Non, bah, si une fois j'ai rêvé comme ça, et là, c'était pas pareil, c'était plus drôle, là. Il m'avait quitté, il était parti avec une femme qui était affreuse. Là, c'était plutôt rigolo, puis alors, j'allais leur faire leur ménage.
Ah, c'est curieux,
Alors, non, mais
c'est bizarre quand
où
même.
est-ce qu'on va chercher tout ça?
Ouais, c'est toujours
J'allais
surprenant.
faire leur ménage, tout en rouspétant. Je faisais le ménage en rouspétant, dans mon rêve, hein. Et puis, enfin bon, ça c'était plutôt rigolo comme rêve. Mais l'autre, non, 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 ça. Là, c'était quand il m'a dit ça à la fin, je dis c'est flagrant, ça c'est. J'avais rêvé à mon mari, quoi.
Donc peut-être pouvez-vous par la pensée lui demander de l'aide.
Comment?
Peut-être pouvez-vous, Micheline, par la pensée lui demander de l'aide à
Oui.
votre mari qui vous donne l'énergie nécessaire pour tenir debout mardi.
Oui. Ah. Enfin là, je sais pas. Alors, d'après vous, qu'est-ce que si je me sens bien pour y aller, j'y vais. Sinon, vaut mieux pas que je me force et puis
Mais vraiment une fois de
avoir des
plus, bien
fois, on sait
sûr.
jamais.
Personne ne vous en voudra, Micheline. Personne.
Ben je sais bien, elle me l'a dit.
C'est
Elle me l'a
évident.
dit, mon amie. Elle dit, tu sais, si tu peux pas venir, elle dit, je le comprendrai très bien.
Une fois de plus, vous
Ou
l'avez.
alors, on ira après, je dis, au cimetière avec elle, sur sa tombe.
Voilà.
Je ferai au moins un geste, parce que je veux faire un geste quand même. On était trop amis ensemble pour.
Mais c'est pour ça que je vous dis que le geste, vous pouvez le faire même en restant chez vous si vous n'allez pas à la cérémonie, en
Oui.
allumant une bougie pour lui et en étant là par la pensée avec elle et avec lui.
Oui.
Et puis peut-être en lui passant un coup de téléphone le soir pour la soutenir encore, lui dire que vous êtes là.
Oui.
Et puis sinon, demandez à votre ami que vous n'osez pas déranger, bien sûr dérangez-la, demandez-lui de vous accompagner si vous vous sentez d'aller au moins à l'église.
Oui,
Ça
oui.
sera quand même plus rassurant de vous savoir accompagner par quelqu'un.
Ah ben voilà, c'est ça. Ou alors je demanderais bien à mon fils, mais je sais pas s'il pourrait y travailler encore. Alors, je pourrais lui demander, est-ce que tu peux m'accompagner?
Ben, il y a bien
Ah
quel...
oui, je me
ben oui.
sentirais beaucoup plus rassurée.
Ben, je crois que c'est ça, vous auriez besoin de ça. Il y a bien quelqu'un dans votre entourage qui peut se libérer pendant 2 ou 3 heures pour vous accompagner.
Voilà, c'est
Ben, ça
ça.
me paraît important.
Ben oui, surtout à mon âge maintenant, hein.
Bien sûr. Et comment ça se fait, d'après vous, que ce deuil-là et vous mettez...
Que
Pourquoi pensez-vous que ce deuil-là est plus violent que les autres, qu'il vous déstabilise
ben
beaucoup? La brutalité, la soudaineté, c'est ça?
oui, c'est ça, oui. Mais mon âge, bon, ben, tant que je suis bien, que je suis autonome chez moi, que je fais tout chez moi, ça va, quoi. Je me dis, mais je sais pas, c'est surtout ce qui me fait peur, c'est le choc. Le choc que j'ai eu quand elle m'a dit ça. Ça m'a fait tellement, ça m'a retourné, quoi. Et depuis, je pense à ça. À 4 heures du matin, là, je dormais pas encore. Alors, je dis, je suis pas bien, quoi.
Ben oui, bien sûr.
Comme on dit, je suis mal dans ma peau, quoi.
C'est
C'est le moment de dire.
le contre-coup.
Oui, voilà, c'est ça. J'ai le contre-coup, là.
Mais sinon, en dehors de cette période-là un peu difficile, vous avez l'air d'être bien à 91, bientôt 92 ans. Vous me
Ah
dites...
ben oui, tout le monde me dit que je suis même très bien, oui, tout le monde me le dit.
C'est une grande chance, hein. Vous êtes autonome?
Ah oui, autonome, je suis chez moi. Si j'ai quand même quelqu'un qui vient faire mon ménage quand même,
Bah oui, quand
mais
même.
autrement le restant, non.
Qu'est-ce que vous aimez dans la vie?
Oh, j'aime tout. J'ai aimé tout dans la vie. Tout m'intéresse. Tout.
Oui.
J'aime tout. Voilà.
Et aujourd'hui, à votre âge, qu'est-ce qui vous apporte encore du bonheur, du plaisir?
Que?
À votre âge aujourd'hui, qu'est-ce qui vous apporte encore du bonheur?
Oh, bah beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses, là. Justement, jeudi matin m'a appris ça. Et l'après-midi, le soir, on est allé au restaurant avec mon fils et ma petite belle-fille qui est adorable. Et on était fêter son anniversaire. Alors, je dis, j'avais pleuré toute la matinée. Enfin, j'étais dans un état, mais je dis non, il faut que je m'arrête. Il faut pas que j'arrive au restaurant avec les yeux rouges et puis tout. Alors, ma foi, tout s'est très bien passé. Ça a été très bien. Voilà.
Donc ça, c'est des moments de bonheur.
Ah, ça c'est des bons moments, par contre.
Combien d'enfants avez-vous?
Deux.
Et des
J'ai
petits-enfants?
deux enfants et j'ai huit petits-enfants qui sont adorables, tous adorables avec moi, mais vraiment des amours pour moi. Leur mamie, c'est pas rien, hein.
Ça aussi, c'est une grande chance, hein, Micheline.
Oh oui, j'ai une grande. Je le dis souvent, mais vraiment, et qui font des grandes études et tout ça, qui sont très bien. Vraiment, je n'ai que du. Et mes enfants, c'est pareil, hein. Ils sont vraiment gentils pour moi, vraiment tout. Ah non, non, vraiment, là, et voyez, ça m'a fait aussi, mais ça m'avait fait un choc aussi. Un jour, je reçois un coup de téléphone. C'était mon petit-fils qui m'appelait, qui allait se marier. Et il m'a demandé, mamie, je voudrais que ce soit toi qui m'emmène à l'hôtel. Alors, vous savez, c'est pareil. Ça m'avait retourné un petit peu aussi. Il me demande à mon âge que je l'emmène à l'hôtel.
C'est une belle preuve de confiance, hein.
Ah oui, ah oui, oh, puis il est super, il est vraiment, puis il a une très bonne situation, les chirurgiens, enfin, ils ont tous des bonnes situations, très bonnes.
Et vous voyez, Micheline, j'aurais tendance à vous dire, dans les moments de tristesse comme ça, tournez-vous vers la vie et vers toutes ces belles choses qui
Ben
vous
oui, tout
entourent.
ce qu'il y a de bien,
Eh
quoi.
oui, c'est
Pour le peu
important.
qui me reste, peut-être, je sais pas.
Ah, qui sait? Vous avez une belle énergie, un beau sourire. Et quand les moments sont durs comme ça, c'est important aussi d'être reconnaissant envers la vie de toutes les belles choses qu'on a eues et qu'on a
Ah
encore, hein,
oui, ben
aussi.
c'est certain, oui, c'est vrai, oh, et c'est ce que je dis à mes enfants, profitez-en de la vie, c'est tellement vite passé, et mais vraiment, moi, je peux dire que j'ai une belle vie. Hein.
Vous avez travaillé?
Oh oui, pendant 40 ans, j'étais dans la coiffure. J'étais coiffeuse pendant 40 ans.
Et c'est un métier que vous avez aimé?
Oh oui, alors. Oh oui. Je peux dire que je l'ai aimé, mon métier. Ah oui.
Qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans, le contact avec les gens?
Ah oui, énormément. Énormément le contact avec les gens, tout ça. Oui. Et je vais toujours vers les gens, vous voyez, même quelquefois dans la rue, je vois une dame qui a une canne comme moi. On s'arrête, on papote toutes les deux, et puis après, bah, on s'en va, on se dit au revoir. On se connaît pas, ça fait rien, mais on parle dans la rue toutes les deux.
Ah, ça, c'est formidable d'avoir ce contact-là. C'est
Comment?
formidable d'être capable de s'ouvrir aux autres facilement comme ça.
Ah oui, ah oui, ah oui. Oh bah oui, moi je suis comme ça, j'ai toujours été. Et puis je crois que l'effet d'être dans le commerce comme j'ai été pendant 40 ans, ça y fait aussi ça. Hein. Ça
Oui, c'est
vous
sûr. Mais vous voyez,
dit, on n'est pas, on reste pas renfermé sur soi-même, quoi.
oui, vous avez dit quelque chose d'important, Micheline. Vous avez dit aux auditeurs qui nous écoutent, profitez-en, ça passe tellement vite.
Ah oui,
Et figurez-vous
ah
que
oui.
cette semaine, je faisais la queue à la caisse d'un supermarché et il y avait devant moi une dame assez âgée qui
Oui.
s'excusait de faire lentement. La pauvre, elle avait du mal à sortir sa carte, à ouvrir son porte-monnaie, à ranger ses courses. Et je lui ai dit, prenez tout votre temps, madame, c'est normal. Et elle m'a dit, si vous saviez, comme d'habitude, je me fais engueuler par les gens parce que je suis lente. Comme si, me dit-elle, comme si les gens oubliaient qu'eux aussi, un jour, ils allaient devenir vieux.
Ah oui.
Eh oui.
Eh oui. C'est ce qui nous guette tous. Hein. Et encore, tout le monde n'a pas la chance de devenir vieux. Hein. Il y a tellement de jeunes qui s'en vont aussi.
Ça aussi, quand les gens se plaignent de vieillir, je leur dis quelquefois...
Avec
que...
les maladies, oui. Avec tout oui. Ça.
Vieillir est un privilège quand ça va bien.
Ben oui, il faut en profiter. J'aime être beaucoup chez moi. J'aime faire de la déco un petit peu. Je fais... Ah, mais je fais tout ça. Hein. J'adore ça.
À bientôt 92 ans, vous êtes épatante, Micheline, vraiment.
C'est vrai.
Ah ben, je trouve, je crois que je ne dois pas être la seule à trouver ça ce soir en vous écoutant. Hein.
Oh oui, mais ça me fait du bien de vous parler, vous savez, Sabine.
Ben, je comprends. Oh. Dans ces moments-là, on a besoin de parler, bien sûr.
Oh oui, oh, j'y ai pas, je vais l'appeler. Et puis, ça me fait beaucoup de bien de vous appeler. Et puis, vous êtes tellement gentille aussi, vous.
C'est normal. Vraiment. C'est normal, Micheline. Et je comprends
merci.
Tout à fait que dans des moments comme ça, on ait besoin de poser sa tête sur l'épaule de quelqu'un aussi.
Ben oui.
Même si on ne se connaît pas, il y a un lien, vous voyez.
Ben voilà, ça fait du bien. Même si on ne se connaît pas, ça fait du bien. Voilà.
Micheline, je vous souhaite plein de courage.
Oui.
Je vais vous embrasser très fort. Je vais devoir m'arrêter parce qu'il y a les informations qui arrivent.
Oui, d'accord.
Prenez bien soin de vous
oui.
Et vraiment, ne vous culpabilisez pas. Si vous n'y arrivez pas, n'y allez pas. Et sinon, faites-vous
oui,
accompagner.
Oui, il ne faut pas que je me culpabilise.
Non, surtout pas. Et ne changez rien, vous êtes formidable, Micheline.
J'allumerai ma petite bougie en pensant à lui.
Exactement.
Merci beaucoup.
Je me permets de vous embrasser du fond du cœur, Micheline.
Merci, moi je vous embrasse aussi, Sabine. Et merci de m'avoir conseillé, de m'avoir réconforté aussi.
Avec grand plaisir.
Voilà.
Je vous embrasse, Micheline. Au revoir.
Je vous embrasse aussi.
Au revoir.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
De cette libre antenne encore ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez bien sûr continuer à prendre la parole en appelant le standard d'Europe 1, le 3921, ou participer par SMS en faisant le 73921 en commençant bien par le mot nuit. Venez partager vos expériences de vie comme l'ont fait avec nous Jade ou Micheline. Venez parler de votre vie, qu'elle soit triste, qu'elle soit joyeuse. Venez partager vos doutes, vos questionnements. Parce que quelquefois, le simple fait de parler de quelque chose nous permet de prendre le recul nécessaire pour mieux comprendre ce qui se passe. Parce que quelquefois, l'écoute, le regard d'un autre, nous ouvre des portes que nous n'aurions pas ouvertes, toutes seules. Nous avons encore une heure à passer ensemble. Profitez-en pour venir aborder tous les sujets qui vous intéressent, tous les thèmes qui vous préoccupent. Il n'y a aucun tabou, vous le savez, ici nous parlons de tous les sujets sans jugement, en toute bienveillance. Quel que soit le chemin que vous choisissez, vous êtes les bienvenus. 3921 par téléphone. 73921 en commençant par le mot nuit pour les SMS. À tout de suite. Et c'est maintenant Yvonne que j'accueille sur notre libre antenne.
Bonjour, bonsoir Sabine.
Bonsoir à vous Yvonne, bienvenue.
Comment allez-vous?
Ça va, merci. Et vous?
Chère Sabine, c'est la première fois que j'interviens à la radio, j'ai pas l'habitude. J'aime beaucoup les conseils que vous donnez. Vous aidez beaucoup de gens et j'ai recommandé à tous mes amis et toutes mes amies. Quand elles ont des insomnies ou je ne sais plus quoi, de 23h à 1h du matin, d'écouter les psys sur Europe et puis bon.
Alors vous êtes une formidable attachée de presse pour nous, c'est bien, merci.
Non mais vous savez, je suis sincère et quand je pense quelque chose, quand on pense quelque chose de positif, autant le dire, autant le répandre autour de soi.
C'est gentil, merci beaucoup Yvonne.
Ah, mais si je pensais le contraire, je ne serais pas venue. Mais vous intervenez depuis combien de temps à la radio, vous, Sabine?
À la Libre Antenne, j'ai commencé en août l'an dernier.
Ah, d'accord. Et vous avez toujours Micheline ou pas ?
Non, non, Micheline, elle est repartie. Je pense qu'elle doit être à notre écoute, mais elle était très fatiguée.
Voilà,
vous
elle
savez.
Doit être à notre écoute. Oui. Alors, merci beaucoup pour les. Mais les conseils que vous lui donnez me servent à moi aussi. Parce que jeudi, j'ai appris la mort d'une amie, une personne âgée. Hein, enfin. Et je rentre chez moi. Et il y a une voisine qui m'attend en bas, qui me saute dessus et qui me dit « Yvonne, j'ai quelque chose à vous dire. Est-ce que vous pouvez aller dans mon salon ?» Ben, j'ai dit « Excusez-moi, moi, je suis avec une amie, on rentre chez nous, je ne peux pas m'arrêter chez vous. Mais dites-moi maintenant, entre deux portes. » Alors elle me dit « Il y a monsieur un tel, le voisin qui est décédé à l'hôpital et tout. » Il était très malade, comment dire, il ne pouvait plus respirer, il fumait et tout. Non. Mais j'ai dit, écoutez, affichez-le, puisqu'elle a un petit peu un rôle de concierge, quoi. Mais ne prenez pas les gens comme ça quand on rentre, affichez-le très simplement, puis voilà. Et le lendemain, je me suis excusée auprès d'elle parce que j'étais un peu cavalière, mais j'avais déjà l'annonce précédemment de la mort d'une amie, puis le soir, elle, ça me pesait beaucoup. Moi, j'ai 89 ans. Alors,
89 ans comme
Oui, j'ai 89 ans.
Mais dis donc,
ans.
Ce soir, on a des super mamies au téléphone, vous avez une pêche incroyable.
Pardon.
Je dis, ce soir, on a des...
Mais mentalement, ça va, mais j'ai du mal en déambulation, quoi, comme beaucoup de gens à un certain âge. Les cannes et tout, il y a le club des cannes, quoi, CA, deux N.
Oui, j'ai bien compris.
Alors, le lendemain, je me suis excusée auprès de la voisine en disant « Excusez-moi, j'étais avec une amie et tout, on rentrait, puis on venait d'apprendre la mort de quelqu'un. » En très peu de temps,
oui,
ça fait beaucoup.
Oui,
c'était un voisin qui n'était pas intime, mais l'autre était... Et vous m'avez donné un très bon conseil d'allumer une bougie en pensant... Vous voyez, je n'y aurais pas pensé. Moi, je suis agnostique ou athée, enfin, ça dépend des jours, mais je crois à rien. Mais je crois quand même à l'amitié et à l'amour.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire.
À l'amitié tout le long de la vie, puis à l'amour pendant un certain temps, ça dépend, c'est plus ou moins variable, parce que dans l'amour, l'amour homme et femme ou bi, si vous voulez, c'est plus ou moins fluctuant, quoi. Tandis que l'amour des parents pour les enfants ou des enfants pour les parents, ou de la famille plus élargie, des amis ou des relations, l'amitié, ça existe toujours. Ça existe toujours. Mais l'amour, c'est plus ou moins fluctuant, ça dépend.
Mais concernant la mort, c'est important ce que vous dites, Yvonne, quelles que soient nos croyances, l'acte symbolique est extrêmement important pour nous et pour notre cerveau. On a besoin de se poser pour accomplir un acte symbolique.
Et quand j'étais petite, alors il y a une amie qui va dire tu radotes, quand j'étais petite, je voulais toujours aller aux enterrements. Mais mes parents n'ont jamais voulu. Mais moi, je considérais ça comme d'aller à un mariage ou un baptême ou, je sais pas moi, une fête quelconque. Je mourais d'envie de voir les enterrements. Et quand j'étais plus grande, j'ai été autorisée. Mais ils voulaient me préserver. J'ai compris après qu'ils voulaient me préserver. Ben, je suis pas allée à l'enterrement de ma grand-mère entre Enghien-les-Bains et Nogent-sur-Marne. Il y avait l'école aussi, bon d'accord, mais quand même, j'avais qu'une seule grand-mère en France et mon père y est allé tout seul parce qu'il y avait du travail, on ne pouvait pas laisser le travail et tout. Puis nous, les enfants, ben, on ne nous a pas emmenés à l'enterrement de la grand-mère. J'ai regretté, quoi, mais ils croyaient bien faire, ils voulaient nous préserver.
Oui, beaucoup de parents pensent qu'il faut préserver l'enfant. Alors, je pense qu'il ne faut pas obliger un enfant à aller à un enterrement, mais lui proposer quand il est en âge de comprendre, parce que ça permet d'aborder la mort comme un sujet qui n'est pas tabou.
Voilà.
Et ça permet de préparer aussi l'enfant à faire son deuil, à comprendre que dans le cycle de la vie, il y a aussi la mort et qu'on y sera tous confrontés.
Oui, mais je crois qu'ils voulaient me préserver, comme pendant très longtemps, je croyais que les cocus, ça n'existait que dans les romans. Alors je disais, oh là là, Zola et Balzac, qu'est-ce qu'ils ont comme imagination, enfin tous les auteurs. Et je croyais que les cocus, parce que mes parents ne nous en parlaient pas, jamais. Et peu à peu, bon ben, on a des amis, des copines de son âge et tout, on discute de tout et de rien, beaucoup plus qu'avec les parents, parce qu'on est du même niveau, quoi, du même âge et tout, donc on apprend les petites choses peu à peu. Mais je voulais parler, dire à notre notre Micheline, elle est tellement charmante, ça ne m'étonne pas qu'elle ait des enfants extraordinaires et des 8 petits-enfants extraordinaires, parce qu'elle, elle est extraordinaire. C'est une bonne mère, c'est une bonne grand-mère, c'est une, on sent que c'est une bonne personne.
On sent qu'elle a un grand cœur et qu'elle est très positive.
Oh là là.
Vous avez entendu quand elle disait que dans la rue, en fait, elle parle à la première personne qu'elle croise de son âge, comme si elle se connaissait. Et voilà, c'est comme ça qu'on évite la solitude aussi.
Oh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et puis, quand on a l'habitude, quand on est commerçant et qu'on est ouvert, bah, ça continue après. Sinon, c'est pour pas se mettre dans le commerce d'ailleurs, hein. Mais je la trouve formidable. Et c'est normal qu'elle ait une descendance comme elle, qu'il l'aime et que tout le monde l'aime et tout, parce qu'elle est merveilleuse.
Et vous, Yvonne, vous m'avez l'air très chouette aussi. Quelle a été votre vie, vous ?
Oh ben, j'ai eu une vie tumultueuse. Chez mes parents, j'ai été protégée, donc ça m'a donné un équilibre quand même et tout. Mais nous, on est d'origine européenne, avant que l'Europe n'existe. On est de différentes religions, ce qui fait qu'on est athéo agnostique. On ne s'est jamais agnostique. On ne s'est jamais disputé
c'est
pour
ça.
La religion.
Vous avez
on s'est engueulé en politique.
Vous avez une religion commune qu'on appelle la tolérance.
Ben, je trouve que les bouddhistes, ils sont très tolérants. On n'a pas de bouddhistes dans ma famille, mais si j'avais eu à choisir, j'aurais choisi dans le bouddhisme ou le taoïsme ou quelque chose comme ça, si j'avais eu à choisir, parce que j'ai l'impression qu'ils sont très tolérants et qu'ils n'imposent pas leur religion, leur philosophie aux autres. Ce que j'ai horreur, moi, c'est les gens qui veulent imposer, qui vont là-bas conquérir les Amériques, qui bousillent tout le monde pour la religion. Et tout. J'ai horreur des conquérants en religion. Ça, je ne peux pas supporter qu'on nous impose des trucs. Chacun pense ce qu'il veut. Puis c'est un mépris des autres, quand même, de dire « moi, ma religion, elle est meilleure ». Ça devient très bête.
Mais dans tous les domaines, imposer son point de vue à l'autre est une forme de bêtise.
Ben oui.
Et de manque d'ouverture. Alors racontez-moi un petit peu votre vie sentimentale, ça ressemblait à
quoi ?
Oh,
ben dis donc, alors là.
Je veux tout savoir, moi, ce soir.
C'est-à-dire que moi, j'avais une haute idée de l'amour, parce que mes parents, c'était un bon couple, avec des hauts et des bas, mais il y avait beaucoup d'estime et d'entraide, et jamais se sont lâchés. Alors j'avais une haute idée de l'amour, et puis, j'ai, peu à peu, je suis venue dans la réalité des choses, et je suis devenue plus pragmatique, quoi. Déjà, les grandes personnes, quand j'étais petite, ils m'ont menti sur le Père Noël et sur la naissance des enfants. Puisque je suis née en 40, on disait, il n'y avait pas la psychologie pour les enfants comme maintenant. Hein.
Vous voulez dire que vous n'êtes pas née dans une rose ?
Dans une... Ben non, non. Mais alors, on m'a dit que j'étais née dans une rose.
Mais oui.
Puis quand j'ai appris la réalité... d'une façon assez sale par des copines et tout. J'ai dit, tes parents, ils sont peut-être comme ça. Ils t'ont peut-être fait comme ça.
Mais pas les miens.
Mais pas les miens.
C'est drôle, ça.
Bah, j'étais en colère parce que je dis, mais c'est dégoûtant ce qu'elle me raconte. C'est ignoble. Bon, et puis alors j'ai réfléchi et tout. Puis j'osais pas en parler à mes parents parce que je me dis, tiens, si mon fils est ça, ils ont leur raison. Quoi. J'étais petite à l'école. Et alors après... Non, d'abord, c'était le Père Noël. Alors, à l'école, on me dit, mais il n'existe pas le Père Noël, c'est les parents, les copines. Moi, j'étais dans une classe mixte. Heureusement, c'est mieux. Alors, le Père Noël n'existe pas.
Et oui,
alors,
les premiers mensonges qui commencent à ça.
Oh,
eh oui.
Alors ça, mais je croyais à mes parents au départ. Alors, je demande à ma mère. Alors, je réfléchis plusieurs jours, puis je dis, bon, ben, je vais voir, je vais lui demander... Je dis, maman, est-ce que le Père Noël, il existe vraiment ? Alors, ma mère, qui était très intelligente, elle se met à rire, puis elle fait, ben écoute, le Père Noël, il existe pour les enfants qui y croient. Si tu y crois, tu auras des cadeaux, mais si tu y crois pas, tu n'auras pas de cadeaux. Je fais, bon, ben je crois au Père Noël, puis je vais tourner le dos. Elle était morte de rire après. Bon.
Alors, de fil en aiguille, vous avez grandi en laissant tomber les rêves un petit peu, les rêves de petite fille ?
Eh bien non, mais oui, mais je suis devenue menteuse parce que je me suis dit, on me ment pour le Père Noël, on me ment pour la naissance des enfants. Comment mon petit frère, il peut naître dans une cerise de moment aussi, dans une cerise ? C'est trop petit.
Dans une cerise, on vous a dit qu'il était né ?
Oui, parce qu'il était né à un moment aussi. Alors ma mère en rigolant...
Je ne connaissais pas celle-là.
En rigolant, elle me dit « Oui, il est né dans une cerise de Montmorency. » Ben, je croyais que c'était un chou. On m'avait dit que c'était des choux. Elle dit « Mais je te dis ça en riant. » Elle me dit « Je te dis ça en riant. »
Alors du coup, vous devenez menteuse.
Ben oui, puisque toutes les grandes personnes me prenaient pour une idiote. Le Père Noël, c'est pas vrai. La naissance, c'est pas vrai. Mais j'osais pas demander trop pour la naissance parce que je voyais que mes parents hésitaient, quoi. Alors j'en parlais sans arrêt avec les copines, je voulais savoir et tout. Et on me racontait des trucs sales, mais je jamais dit pas à mes parents. Et puis, après, j'ai compris que c'était vrai, quoi.
Et alors,
l'homosexualité, je l'ai compris qu'au lycée, en terminale, parce que j'y croyais pas. J'étais dans le plus grand lycée du Maine-et-Loire, avec la maîtresse, elle m'avait inscrite, elle m'avait fait avoir des bourses et tout ça. Alors, parce que mes parents, j'étais tellement difficile de caractère, ils ne savaient pas quoi faire de moi. Puis la maîtresse a dit, je m'occupe des bourses et tout. Vous verrez, les adolescents les plus difficiles, ça fait les meilleurs plus tard. Alors, mes parents étaient convaincus, parce qu'à l'époque, on respectait beaucoup les institutrices. Puis je suis tombée sur une institutrice géniale, qui appréciait beaucoup mes parents aussi. Donc, ils ne s'arrachaient plus les cheveux, quoi. Ils ont dit, Puis alors, ils ont tempéré, quoi, donc je suis rentrée au lycée. Et c'est là-bas, alors quand j'avais la copine, la cousine de Jean-Claude Brialy au lycée, brillante, très moche, elle avait une tête de cheval, mais elle était brillante. Alors, on adorait Jean-Claude Brialy, qui était du Maine-et-Loire, et qui était un bon, très bon comédien. Donc, j'ai dit, oh là là, Jean-Claude Brialy, il est formidable. Il était beau, en plus, ce type-là. Mmh. Alors, elle s'appelait pas Sabine, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Enfin, une fille brillante et intéressante. Alors, elle me dit, oh là là, mais mon cousin, il est perdu pour les femmes. Elle s'appelait Brialy. Il est perdu pour les femmes. Je dis, pourquoi il est marié? Elle me fait, mais non. Alors, elle me dit, mais c'est avec les hommes qu'il couche.
Ah oui, donc,
alors là, je suis tellement tombée. J'ai dit, mais elle se fout de moi, celle-là aussi, elle me ment. Alors je lui ai dit, écoute, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Pop, je lui ai tourné le dos dans la cour de récréation, puis je lui ai plus parlé. Puis après, on a reparlé et tout, puis après, j'ai élargi mon champ d'investigation, et c'était vrai. Alors ça m'a déçue, quoi, parce que je croyais qu'il est perdu pour les femmes, qu'est-ce que j'étais.
Alors, vous,
en plus,
je
passais pour l'imbécile de première, l'idiote, voilà.
Vous, dans tout
alors,
ça,
après,
votre vie sentimentale,
pardon,
vous, dans tout ça, Yvonne, votre vie sentimentale, comment ça s'est construit?
Oh ben, ça s'est construit que j'ai commencé tard parce que j'avais une haute opinion de l'amour. Je voyais ça très fleur bleue, vous voyez.
Et oui, c'est un peu ce que je crains en vous écoutant, c'est que vous aviez placé la barre un peu haute. Hein.
Oui, ma mère m'a dit, les femmes qui ont trop d'idéal, c'est trop loin de la réalité. Et il y en a qui ne se marient pas pour ça. Quand on a trop d'idéal, c'est difficile de retomber dans la réalité. Quoi. Elle m'avait dit ça.
Alors, donc
et je me suis dit donc qu'elle allait dans la réalité. Et puis, c'est très délicat. Hein. Donc, j'ai commencé qu'à 21 ans, avec un type brillant, qui était veuf avec 4 enfants. Je suis montée à Paris et tout ça pour le voir et tout. Mais c'est compliqué, un veuf avec 4 enfants quand vous avez 20-21 ans. Et puis, il y a des choses, il me plaisait bien et tout. Puis après, il voulait être ingénieur, il voulait retourner, c'était un français, bien français, un franco-français. Un ingénieur des eaux d'hydrologue. Il me dit maintenant, on part avec les enfants et tout en Afrique. Il était
Peu importe, Yvonne, ce que j'aimerais voir, c'est les grandes lignes de votre vie, les grands moments, les moments importants, ce que vous avez construit.
Alors, les grandes lignes, j'ai eu beaucoup d'expériences. Moi qui voulais chaque fois n'en avoir qu'un seul. Et je ne me suis jamais mariée, je n'ai jamais fait d'enfant parce que je tenais beaucoup à la liberté. Et j'ai dit, mais quand je ferai un enfant, si je fais un enfant, je ne peux pas prendre mes valises et me tirer chez moi ou partir ailleurs, j'en ai assez. Donc, c'était peut-être une forme d'instabilité et de curiosité. Parce que je me dis, n'avoir qu'un homme dans la vie, mais c'est un manque d'expérience quand même.
Oui,
alors, il y en a qui voulaient m'épouser parce que je suis sympathique quand même, puis je plaisais aux hommes. Donc, j'avais qu'à claquer du doigt. Mais je me suis dit, si je m'en fixe un, je m'enlève tous les autres, je ne peux plus le voir autour de moi. Si j'en ai un, je suis honnête Et en plus, si j'ai des enfants, mais là, je suis ligotée comme une chèvre avec une corde autour du cou. Si j'ai des enfants, je ne pourrais plus me permettre d'aller à gauche, d'aller à droite. Vous voyez ?
Donc une vie,
vous êtes
vie...
responsable quand vous avez des enfants.
C'est vrai, une vie de liberté, est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez ou que vous assumez complètement aujourd'hui ?
Pas du tout. Mes parents voulaient que je me marie parce qu'à l'époque, une fille devait se marier, ne devait pas être une fille. On appelait ça des filles mères,
ouais, c'est vrai,
célibataires.
Ouais, ouais.
C'était très péjoratif. Puis je voulais pas faire de peine à mes parents. Alors, il y avait des types qui tournaient autour de mon père pour tourner autour de moi, des types malins, quoi. Alors, ils étaient amis avec mon père et tout. Puis une fois, mon père dit « Oh, Sacha, c'était un russe blanc, enfin, un enfant de russe blanc, un type très agréable. Il dit « Sacha, il me plairait bien comme gendre. » Ouh, qu'est-ce qu'il m'avait pas dit ? Ma mère dit, laisse-la tranquille, elle est capable de choisir toute seule. Alors j'ai dit, je ne veux pas. Dès qu'on m'aurait présenté quelqu'un, ça m'aurait fait tous les
oui,
faits
contraires. C'était courage,
je ne veux
courage
pas de Sacha.
Fille,
j'aime bien la famille de Sacha, Ira, sa sœur, je les aime beaucoup, j'aime beaucoup les parents. Je ne veux pas de Sacha. D'ailleurs, il avait un problème, il avait une oreille pas pareille que l'autre. Puis moi, j'aime les beaux hommes, comme mon père et ma mère. J'aime les hommes qui sont beaux. Et intelligent d'abord, et très agréable à vivre, comme mes deux frères.
Bon, donc
voilà.
Yvonne, pas de regret, une vie de liberté.
Aucun regret.
Une vie avec...
Parce que vous savez, les hommes, ils ne demandent qu'à mettre leurs chaussons. Oh, j'ai 35 ans, tous mes copains sont mariés, vous voyez ce que ça veut dire. Ouh, là, je prenais ma valise, puis j'ai quitté Lausanne, où j'étais en vacances chez un copain. Mes copains sont mariés. Mais j'en avais une. J'ai dit, ouh là là, celui-là, il va me coincer. Donc, je suis partie. Il se trouve que j'étais enceinte avec stérilet, n'est-ce pas ? Parce que moi, j'aurais accouché tous les ans. J'aurais eu 20 ou 30 enfants, je ne sais pas. J'aurais accouché tous les ans. Non, merci. Déjà, en élever un ou deux ou trois, ce n'est pas si simple que ça dans la vie actuelle. Alors, je me suis sauvée. Enfin, je ne me suis pas sauvée, je lui ai dit au revoir. Puis je me suis dit, je n'en verrai jamais plus. Puisqu'il veut se marier, j'ai 35 ans et tout. Voilà. Alors, je suis rentrée à Paris et j'étais enceinte avec stérilet. Faut le faire, hein, avec
oui,
stérilet.
Ça arrive.
Donc, à l'époque, j'avais 35 ans, 34-35 ans. Alors, il a fallu que je me fasse avorter à Paris par aspiration. Ben, je peux vous dire que ça m'a fait mal. Hein. Ça m'a fait très, très mal. Mais j'ai serré les dents, il m'a avorté, mais c'était légal quand même, mais dis donc par aspiration, la douleur. Puis lui, c'était un généraliste, il n'était pas trop habitué de tout. J'étais passée par, vous savez, celle qui aide les femmes pour avorter à l'époque.
Je ne sais plus, Yvonne, on s'égare un peu là, on part dans plein plein de choses. Moi, ce que j'entends dans
votre
message...
Écoutez, je suis allée voir Simone Veil à l'Assemblée nationale parce que j'allais faire du ping-pong à l'Assemblée. J'ai passé toute une nuit jusqu'à minuit avec Simone Veil et je suis en admiration devant elle. Voilà.
Ça m'étonne pas, vous n'êtes pas
parce
la seule.
Parce que les hommes l'attaquaient et tout, mais nous, en tant que... J'étais spectateur là-haut dans les loges, on n'avait pas le droit d'applaudir ni rien, autrement c'était dehors tout de suite. Il y avait des députés qui la traînaient dans la boue et tout. Les hommes étaient dégoûtants. Elle était formidable, cette Simone Veil. Moi, j'ai une passion pour elle. Bon, voilà. Alors, ma vie, je n'ai jamais regretté de ne pas m'être mariée parce qu'autour de moi, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à mes parents. J'avais 30 ans, je leur ai dit, voilà. Ils voulaient toujours me marier, alors je leur ai dit, voilà. J'ai deux frères. Ils sont mariés. Avec des filles bien.
Donc les petits-enfants sont assurés.
Deux enfants, chacun. Eh bien, écoutez, les trois enfants que vous avez, c'est moi la plus heureuse. Parce que j'ai pas de responsabilité. J'ai pas de mari avec qui je dois... on doit quand même être diplomate dans un couple et tout. Moi, non. Je vis ma vie, puis voilà.
En tout cas, ce qui est formidable, Yvonne, c'est d'arriver à 89 ans en assumant ses choix, en étant heureuse.
Pardon, 79 ans.
À 79, pardon, j'avais entendu 89 tout à l'heure.
Ben, je me suis peut-être trompée, vous savez.
Dans l'élan, en tout cas. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire ? Moi, j'ai perdu mes grands-mères il y a bien longtemps. Et ce soir, Micheline et vous, si je pouvais, je vous adopterais bien comme grand-mère.
Ah, oh, mais oui, parce que j'adore les enfants et les jeunes et tout.
Oui,
et
je ne suis plus tout à fait une enfant toute jeune.
Mais je me suis occupée de mes deux nièces. Je me suis occupée de beaucoup d'enfants. Ou chez mes propriétaires, quand j'ai débarqué à Paris, je ne connaissais personne. Paf, on me confiait les gosses et tout. Et je suis toujours restée en très bon rapport et tout. J'aime les enfants, mais en faire soi-même, c'est une autre responsabilité que les faire soi-même, que de s'occuper de ses deux nièces et des enfants.
Tout à fait. Hein? Allez, gardez,
c'est un choix.
Gardez cette belle énergie, Yvonne. Merci pour votre appel.
Merci beaucoup et bonne soirée. Et merci pour tout ce que vous faites pour tout le monde.
C'est gentil. Je vous embrasse.
C'est merveilleux.
Je vous embrasse très fort, Yvonne.
Au revoir. Bonne soirée. Je vous embrasse.
Au revoir.
Bon courage. Bonne nuit. Et bonne continuation.
Merci,
au revoir.
Yvonne. Au revoir.
Au revoir.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1.
Quelle énergie. Gina, vous êtes là? Allô? Gina?
Bonsoir, Sabine.
Ah, bonsoir, Gina.
Bonsoir.
Je voulais absolument garder du temps pour pouvoir vous accueillir sur cette antenne. Bienvenue
oui,
à vous.
Oui, c'est gentil, merci beaucoup.
Quelle énergie elles ont, nos grand-mères, ce soir, dites donc.
Oui.
Je ne sais pas ce qu'elles prennent, mais je veux prendre la même chose.
Ça donne la envie de continuer.
Incroyable.
De baisser les bras,
ah ouais.
On les entend.
Alors, racontez-moi un petit peu, je vous écoute.
Oui, je vous appelle. Bon, j'ai bien retourné ça dans ma petite tête. Je vous écoute depuis quelque temps, il n'y a pas longtemps, je vous ai découvert. Et j'ai décidé de vous en parler ce soir. Voilà, je suis d'origine antillaise. Ça doit se sentir.
Un petit accent ensoleillé, oui.
Oui. Et voilà, je suis, je sais pas si on peut le dire, en Normandie, bon. Et parce que j'ai mon frère qui vit avec une femme normande et je suis une ex-femme de militaire. Je vivais en Bretagne et un jour, il est arrivé chez moi avec un couffin et sa compagne. Et moi, je venais de divorcer et j'ai eu des fausses couches, j'ai pas pu avoir d'enfant. Et il y avait un petit garçon là-dedans, un couffin adorable, qui avait 8 mois. Et je suis tombée folle amoureuse de cet enfant.
Donc, c'est votre neveu, c'est ça?
Mon petit neveu,
oui,
voilà,
oui.
Il avait 8 mois et tout. Et depuis, il y a eu une grande amitié, une grande affection qui a été construite entre cet enfant, sa maman et mon frère. Ce qui fait, au bout de quelques temps... Vivant seule en Bretagne, j'ai décidé de venir vivre en Normandie, rien que pour m'occuper de cet enfant. Et comme mon frère m'avait demandé de venir, parce que je passais le cap de divorce aussi.
Donc il vous a demandé de vous rapprocher un petit peu d'eux, pour vous, et pour eux, en fait, et pour l'enfant.
Je voulais rentrer aux Antilles, en fait non, je suis venue là, et ce petit enfant, je suis tombée vraiment... devant lui, le gâter, c'était mon... Et la maman, par contre, très gentille avec moi. Après, je me suis installée, j'ai recommencé à travailler parce qu'en fait, j'ai fait des études d'esthéticienne, mais après, j'ai abandonné parce que je trouvais que ça m'ennuyait. Après ma séparation, je me suis mise dans le médical. J'ai commencé à travailler à l'hôpital avec un concours et tout, et voilà. Et je m'occupais de cet enfant. Après, il y a eu un deuxième qui est arrivé, alors là, j'étais encore plus un troisième, un quatrième.
Ah, mais
alors, Tati était vraiment débordée et on avait beaucoup besoin de Tati. Et entre-temps, il y avait maman, papa en Martinique, il fallait rentrer... s'occuper d'eux un moment, parce qu'ils étaient malades, et c'était moi qui suis la cinquième de cet enfant. Et en fait, compte, ce qui s'est passé, c'est que je me suis beaucoup investie dans la vie de mon frère avec ses enfants. Et j'étais beaucoup réclamée par sa compagne, dès qu'il y avait une grossesse, quel que soit l'endroit où j'étais, parce que j'ai eu une vie assez tumultueuse aussi au niveau des voyages. J'étais partie sur Toulouse et tout, il fallait venir, je suis enceinte, je ne sais pas quoi faire, tu es la première à qui je le dis, viens vite et tout.
Mais
et
ça vous plaisait, ça, vous avez une complicité avec
elle? Oui, j'étais heureuse. J'étais heureuse, c'était des moments de bonheur.
Oui, c'est une façon de vivre par procuration un petit peu tout ce bonheur avec les enfants, quoi.
Ah oui, Ah oui. Mmh. Et quand j'arrivais, elle me disait, il faut que tu viennes. Alors, qu'est-ce que j'emmène? Emmène-toi, on a besoin de toi, j'ai besoin de toi. Alors j'arrivais parce que bon, c'était les menaces, soit j'avorte ou si tu viens pas, c'était des trucs comme ça. Et j'ai pas dit ça encore j'avais pas dit à son compagnon. Et voilà. Alors moi j'arrivais et il y avait des pleurs et je savais pas pourquoi. Pourquoi tu pleures? Bon, parce que il ne veut pas, moi je veux. J'étais toujours au milieu de tout ça. Et après, bon, je disais non, il faut pas, je vais t'aider. Et puis au bout de quelques temps, c'était des disputes. Elle me disputait, elle me mettait à la porte. Je ne veux plus te voir. J'interdirais les enfants aussi. Et c'était les pleurs. Je partais, je déprimais. Après, elle me rappelait, je revenais. Après, j'étais même malade un moment de cette vie.
Oui, c'est un peu excessif comme relation. Ça, c'est très.
Oh oui. Beaucoup souffert et j'ai fait une thérapie où et puis le manque d'argent, c'est moi qui comblais. Mes bijoux passaient en vente pour lui donner, mais je disais jamais rien à son compagnon.
Et pourquoi vous ne disiez rien à votre frère?
Parce que j'arrivais pas, je disais que c'était nos histoires de femmes. Et elle avait été en conflit tout le temps avec sa maman et elle a une sœur, c'était pareil, ça n'allait pas avec elle. Elle me racontait tout et moi je gardais tout. Et puis quand je partais, quand ça éclatait, je retournais chez moi et j'étais seule parce que je suis divorcée, pas d'enfant, et je pleurais, je racontais ça à ma mère et mes parents étaient malheureux et elle me disait ne te rends pas malheureuse pour les enfants des autres, que t'as toujours fait ça. Elle te manipulait avec ses enfants. Entre temps, elle est venue en vacances aux Antilles, ça a été la pagaille pareil. Les enfants sont à droite, à gauche, pas couchés à 11h, qui tombaient. Et puis, quand elle m'appelait, je sortais du travail, de l'hôpital, j'étais fatiguée, j'allais. Elle marchait devant avec sa cigarette dans la bouche, et moi, j'attrapais les petits par-ci, par-là. C'était. Oh, j'ai vécu vraiment. Et puis, les années passaient, bien sûr. Après, je me suis mise en couple, c'est pareil. J'allais chercher les enfants. Alors, ma mère me disait que trop jeune couple pour mettre des bébés dans ton couple.
C'est ça que comment est-ce que votre mari prenait tout ça, cet investissement dans une autre famille?
Il disait rien parce qu'il voulait me faire plaisir, parce que je n'avais pas d'enfants. Et mon frère, c'est pareil, il était content de me faire plaisir aussi.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est un problème d'équilibre, là. C'est un problème de curseur, c'était trop.
Oui. C'était un déséquilibre. Quelque chose que j'arrive, ça va faire l'aîné à maintenant 28 ans. Et que jusqu'à aujourd'hui, je suis partie vivre dans le sud où je me suis mariée. Et là, dernièrement, j'ai eu des soucis, des trucs où elle m'a encore demandé de revenir. Il n'y a pas longtemps, je suis revenue pour les fêtes de Noël, où j'ai trouvé un appart et tout. Et j'ai comblé les enfants, les quatre. Je me suis ruinée. Elle m'a aidée un petit peu au niveau linge de maison, qu'elle m'a avancé un petit peu des petits trucs parce que j'avais tout bazardé à Emmaüs. Tout. Et puis, depuis le mois de janvier, elle a disparu. Elle ne vient, j'ai plus de nouvelles. On a fait toutes les courses, tout ensemble, tous les cadeaux, la déco, j'ai offert tout ce que je pouvais. Et elle a fait le va-et-vient ici, elle m'a aidée à faire des trucs pour m'installer un peu. Et puis, depuis le mois de janvier, plus personne, pas de nouvelles. J'ai téléphoné une fois, pas de réponse. Et j'ai laissé tomber, j'ai dit, je ne vais pas rappeler deux fois. Et dernièrement, quand mon frère est passé me voir, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? De toute façon, moi, je ne veux pas d'histoire. Je ne dirai rien. Et il m'a dit, j'en sais rien qu'il m'a dit, parce qu'il se mêle jamais, lui. Il dit jamais rien. Et comme il me dit, tu ne me dis pas non plus ce qui se passe. Alors, depuis statu quo, pas de nouvelles. Nous sommes mi-février. Ils habitent à 20 minutes de chez moi. J'ai le cœur comme une pastèque. Mais j'ai deux ou trois fois, j'ai eu son numéro. troisième fois, j'ai dit, bon, je bloque le numéro, comme ça, je vais pas avoir mal. Et voilà, ça fait des années que ça se passe comme ça, des années.
C'est curieux,
et
Gina.
Elle est restée un an, j'étais venue après la mort de ma mère, j'ai perdu ma mère et mon père en deux mois de décalage aux Antilles. Elle est venue, j'étais hospitalisée parce que je me suis occupée d'eux. Après, j'ai fait une dépression, surtout que mon frère est parti tous les deux assez vite d'AVC. Et c'était moi qui m'en occupais aussi. Et j'étais tellement... J'étais à quatre pattes quand mon frère est parti. On m'a hospitalisée. Elle est venue pour... après, en vacances avec mon frère. Elle partait toutes les après-midi. Ils étaient dans la maison de mes parents. J'étais couchée dans la chambre à côté. Ils étaient assis à faire un souk incroyable. Ma soeur a appelé le médecin. Il a dit, pourquoi on me laisse dans cette... Toutes les après-midi, elle partait à la plage. Elle ne m'a jamais invitée. Ils allaient au cinéma. J'étais dans la chambre. Ils partaient des endroits où mon frère n'avait pas l'habitude d'aller. Il lui disait pas reste avec elle, mais il lui disait ça va peut-être pas te plaire pour voir si elle restait avec moi. Elle est partie, elle a repris l'avion. J'étais hospitalisée. Le médecin m'a dit on va l'enlever d'ici parce qu'il y a trop de bruit, trop de trucs, on va pas la laisser avec eux. Et j'ai dit vous avez raison, docteur, je vais pas gâcher leurs vacances. J'étais hospitalisée. Elle est partie de la Martinique, elle n'est jamais venue me dire au revoir ni me voir à l'hôpital. Et peut-être quelques temps après, mon frère n'a pas arrêté de me dire parce que je pleurais en Martinique. J'étais perdue. Il m'a dit viens parce qu'il sait que j'aime les enfants. Je suis revenue encore en Normandie. Je me suis installée à nouveau. J'ai retrouvé du travail. Parce que quand j'achète quelque chose pour moi, une parure de doigts, je prenais pour elle tout. À un moment, ils n'avaient pas de sous. J'ai tout bazardé mes bijoux pour lui donner des sous. Quand il manquait quelque chose à la maison, chez elle, elle me disait, j'achetais. Et elle n'arrêtait pas de me dire, oh, mais je t'aime, t'es gentil, heureusement que t'es là, les enfants t'adorent et tout. C'était toujours des trucs comme ça. Et un moment, et elle fumait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et un jour, je lui ai dit, arrête de fumer, tu vas te frapper une truc. C'est pas... Tu as quatre enfants. Et elle m'a répondu ce jour-là, il n'y a pas de problème, je te fais confiance, je te les donnerai pour aller au bout du monde. Voilà. Et puis, pareil, il y a eu un moment où tout a disparu aussi. Pendant un an, j'ai été malade, déprimée. J'avais rechuté après la maladie de la mort de mon frère. Mmh. Et j'étais hospitalisée. Elle n'est jamais venue me voir. Je suis restée un an. Et un soir, vers 18h, le téléphone sonne. Et elle me dit, c'est, je vais dire, Catherine. Et je lui dis, comment vas-tu? Ça fait tellement longtemps. Comment ça va? Et elle me dit, je t'appelle parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la famille. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu un accident, mon frère, les enfants et tout. Elle m'a répondu, non, c'est parce que j'ai rien dit à personne. C'est pour te dire que j'ai un cancer. J'attrape un cancer du sein. Alors là, j'ai éclaté en sanglots. J'ai commencé à pleurer. Elle s'est mise à pleurer avec moi. Et je lui ai dit, je vais m'occuper de toi. Tu seras sauvée. Je vais prier pour toi. J'ai des groupes de prière partout. Je suis catholique. Je vais les appeler tout de suite pour qu'on fasse une chaîne de prière pour toi. Et ça a commencé. J'ai appelé toutes mes copines dans les groupes de prière. On s'est mis à prier pour elle. Après, elle a eu sa chimio, elle venait manger à la maison. Le soir, elle avait la tête qui lui grattait. J'allais chez elle dormir avec elle. Je lui massais le crâne et tout. Et j'ai passé tout ce cap avec elle. Sa sœur aussi, qu'elle n'aime pas et tout, était très proche d'elle. Après, tout le monde l'énervait. Elle ne voulait plus voir personne. Elle a disparu. Après, elle m'a encore plaqué, sans rien me dire.
Alors, oui, justement, je stoppe un peu, Gina, parce que sinon, on ne va pas réussir à dialoguer.
Oui, oui.
Quand on vous entend, ce qui est surprenant, c'est qu'on a l'impression que vous parlez d'une relation de couple.
Oui.
D'ailleurs, vous dites, elle m'a plaqué.
Oui.
C'est pour ça que je me permets de rebondir. Et depuis tout à l'heure, oui. Quand je vous écoute, et je me dis, mais c'est incroyable.
Thérapie,
c'est comme si vous parliez d'un amant, d'un amant, quoi. Comme si vous aviez une relation de couple. Ah avec des ruptures, avec des retrouvailles.
Moi, c'est que le jour où elle s'est disputée avec moi, et... non, elle ne s'est pas disputée. Elle m'avait appelée, j'étais à Toulouse, je suis venue pour les fêtes de Noël, j'avais vendu des bijoux parce que j'avais pas de sous pour leur emmener, j'avais emmené. Comme ça, j'ai tout acheté ce qui manquait dans la maison et tout, parce qu'ils n'avaient pas de fin de mois. Et quand je suis partie, quand le soir de Noël, mon frère, il est infirmier de nuit, il a passé Noël avec nous, mais le jour de l'an, par contre, il travaillait. Le jour de l'an, elle a accouché, elle s'est couchée, elle a laissé les enfants, elle n'est pas venue, j'avais acheté un champagne, elle n'a pas pris une coupe de champagne, rien avec moi, et elle est partie se coucher. Et le lendemain, quand mon frère est rentré, je lui ai dit « bonjour, chez moi, je suis fatiguée », et tout vu son comportement. Et là, elle m'a bloquée dans la chambre. Quand je parlais avec mon frère, elle m'a dit, si tu sors d'ici, je te plaque les enfants, je te les prends, tu ne les verras plus jamais. Qu'est-ce que je t'ai fait? Elle m'a fait une crise. C'est là que j'ai vu que c'était comme un mec qui me parlait.
C'est ça. Dina, on a assez peu de temps, donc j'ai malheureusement devoir être un peu brève. Mais dans votre histoire, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un problème de place. Personne n'est à sa place. Quelque part, la situation vous a arrangé quand même quand vous avez pris beaucoup de place dans cette famille parce que vous aviez ce bonheur d'être avec les enfants. Peut-être avez-vous pris trop de place. Je trouve que votre frère, lui, ne prend pas assez sa place à lui.
Oui.
Je pense que lui aurait dû un peu mettre les choses à leur place. Il ne l'a pas fait.
Oui.
Et qu'elle use et abuse de sa place à elle.
Oui.
Donc, il faut voir quels sont les tenants et les aboutissants, ce qui arrange les uns et les autres. Mais quand ça devient confus comme ça, le résultat, eh ben, c'est un peu le bazar, si je peux me permettre.
Oui, absolument. Non, mais je comprends. Je pense que c'est ça.
Et donc, moi, je pense qu'il serait intéressant avec elle de faire un vrai point, d'aller vraiment lui parler.
Je lui ai parlé avant de venir. Je lui ai dit, pour les enfants et pour mon frère, plus d'histoire.
Non, quand je parle de lui parler, c'est vraiment de faire une analyse un peu de la situation depuis des années. De comprendre qu'il y a un problème de positionnement dans cette famille. Et que peut-être il faudrait redéfinir des rôles de manière un peu plus définie, un peu plus cadrée. Parce que ce comportement est assez curieux, son comportement à elle, qui vous considère presque comme un...
La psychologue, elle m'a dit, votre belle-sœur, elle est pratiquement amoureuse de vous.
C'est ça.
Elle vous considère, elle considère ce que votre frère ne lui donne pas. Elle vous... Avant, c'est vers vous qu'elle vient avant. Et après, si elle arrive à voir quelque chose avec vous ou pas, eh bien, elle se retourne vers lui. Mais c'est vous qui jonglez au milieu, de Marie, en fait, quand elle vous dit je te prends les enfants, tout ça, c'est qu'il y a. Et la dernière fois, je lui parlais plus, elle m'envoie un message pour me dire je t'ai toujours aimé et tout. Et
oui, c'est ça, c'est
en effet qu'elle se conduisait avec moi comme un homme.
Mais là où est le piège, c'est qu'en fait, elle vous a offert dans une vie ce que vous n'aviez pas de votre côté.
Oui.
Et donc
oui.
La porte était grande ouverte à ce déséquilibre.
Oui, ma faiblesse, c'était ma mère, ma faiblesse,
je pense que c'est...
ses enfants. Et elle l'a remarqué.
Ben
et
oui.
Elle joue avec. Et en même temps, comme vous dites, c'est que je m'investis de trop aussi. Je me suis trop attachée aux enfants. Mais qu'est-ce que vous voulez voir
Je ne pense pas que vous soyez trop attachée aux enfants. En tant que tante, ça me paraît normal. Ce qui est plus compliqué, c'est votre rapport avec elle. C'est là où il faut assainir les choses. Et ça ne peut être qu'assaini qu'en parlant, qu'en mettant des mots là-dessus.
Mais non, mais c'est pas quelqu'un qui comprend, c'est quelqu'un qui n'est pas très, très intelligente.
Très ouverte à ça,
ouais. Elle dit des choses qui ne sont pas à dire, elle n'est pas diplomate comme moi. Moi, je me tais, j'écoute. Mais elle, si on reste quelques 10 jours ensemble, elle va sortir. Oh, c'est bizarre, on ne s'est pas encore disputé encore.
Dites-moi, Gina, pardonnez-moi, il faut que je fasse très vite, il nous reste une minute. Quel âge ont les enfants?
Oh, ils sont maintenant, je les ai connus bébés enceintes, et ils ont 28 ans.
Alors, c'est là que je voulais en venir. Vous n'avez plus besoin de passer par elles pour avoir des bonnes relations avec eux. Donc, dans ces cas-là, parlez.
Les enfants qui font des études de médecine, d'ingénieurs, de grandes
peu
études.
Peu importe, ils sont
dans leur monde.
Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez plus besoin de passer par elles pour être en contact avec eux. Donc, prenez une saine distance par rapport à elles, parlez à votre frère et gardez ces liens précieux avec ces enfants-là. D'accord, Gina?
D'accord.
Je suis désolée, j'ai pas beaucoup plus de temps malheureusement.
Oui,
toujours un peu frustrant quand l'émission se termine comme ça, mais en tout cas.
Très bon conseil, je vous remercie pour ce que vous faites pour nous le soir. C'est vrai qu'on est dans la solitude et rien qu'à vous écouter, vous avez une voix vraiment la gentillesse, la sagesse, l'écoute des autres.
C'est gentil, merci Gina.
Je souhaite plein de bonnes choses.
Mon dernier conseil sera de prendre soin de vous d'abord. Maintenant, il est temps.
Oui, je voudrais bien. Pas évident.
Pensez à vous d'abord.
J'aime les gens, j'aime aller au-devant, j'aime les enfants, comme disait la dame. J'aime tout. J'aime les plantes, j'aime tout.
Alors,
tout, tout.
Aimez-vous vous-même pour commencer. Je vous embrasse très fort, Gina.
Merci beaucoup, Sabine. Au revoir.
Merci à vous.
Au revoir. Merci.
Merci à vous, Gina. Merci à Yvonne. Merci à Micheline. Merci à Jade de leur sincérité, de leur témoignage. Pardon à Brigitte qui attendait que nous n'avons pas eu le temps de prendre. Notre émission se termine. Demain soir, c'est Sophie Peters que vous retrouverez à ce micro à partir de 22h30. Quant à moi, je prends quelques jours de repos. C'est donc Sabrina Philippe qui vous accueillera le week-end prochain. Je vous retrouverai vendredi 8 mars avec grand plaisir et je vous quitte avec cette citation. Dans la vie, fais confiance à ceux qui peuvent voir ces trois choses. Ta peine derrière ton sourire, ton amour malgré ta colère et la raison de ton silence. Je vous souhaite une belle nuit sur Europe 1. À bientôt.